Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Bonjour, c'est la marche.
Bonjour, comment allez-vous?
Ben oui, ça va bien. Monsieur Lamarche, quelques petits sujets pour vous ce matin. Commençons donc par l'île Saint-Quentin. Il y en a été beaucoup question hier. Ça a fait beaucoup réagir nos auditeurs et nos auditrices. On partait de l'excellent texte de Paul Vermeaux-Desroches qui nous donnait un peu les deux côtés de la médaille. Est-ce que, parce que bon, ça fait des années qu'on parle, bon, l'île Saint-Quentin, on la met-tu gratuite? Éventuellement, on va-tu aller là? Est-ce que c'est votre objectif, Monsieur Lamarche, de rendre ça gratuit?
Mais tout d'abord, moi, je partage votre avis par rapport au texte de Paul. Puis l'opinion hier que vous avez, la discussion que vous avez eue avec François Hugin, je la trouvais très intéressante. Puis je partageais la plupart de vos points d'ailleurs.
Okay.
Ce que moi je voulais, c'était bien clair quand à l'époque, à cet automne, quand j'ai appelé Pierre-Luc Fortin et Pierre Montreuil pour leur proposer de faire la gratuité pour l'hiver, ce que je voulais, c'est profiter du contexte COVID et du budget qu'on avait pour dans nos activités de programmation. Le tester. Aller voir, un peu comme un laboratoire, comment ça se passerait. Faut savoir qu'à l'époque, Pierre Montreuil avait été emballé par l'idée. Pierre-Luc, lui, était, je vous dirais qu'il était mitigé. Il avait peur qu'on ouvre la grande boîte de Pandore et qu'on fasse la discussion. Puis c'est là que j'ai dit, ben non, il faut vraiment prendre cette opportunité-là, puis en faire un test, puis aller voir, puis susciter le débat, puis faire la démonstration aussi de la qualité puis de la beauté des Saint-Quentins, parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert cet hiver, là.
Oui,
même des gens de Trois-Rivières, ça, il faut se le dire.
Mm-hmm.
Et l'île Saint-Quentin en hiver et l'île Saint-Quentin en été, c'est deux offres touristiques différentes ou deux offres de loisirs différentes, je vous dirais. Pour l'hiver, ben là, ce qu'on offre, c'est vraiment un endroit de destination où les gens vont venir y prendre quelques heures, une grande marche, profiter un peu de profiter du soleil, venir faire du patin, de la glissade. Mais dans un contexte avec un temps quand même restreint. Pour l'été, ben c'est une autre offre où on vient toucher là beaucoup de clientèle, des camps de jour, des villégiateurs, des gens de la marina, des amateurs de sport nautique non motorisés. Donc c'est vraiment cette mixité de clientèle là, ce qui fait en sorte qu'on a comme vraiment deux offres. Puis moi je voulais voir avec l'hiver la possibilité ou en tout cas de mettre un peu de pression pour que les gens participent à une espèce de mouvement public pour voir, pour qu'on puisse prendre une décision, effectivement.
Fait que là, jusqu'à maintenant, ça vous fait dire quoi, M. Lamarche? Est-ce que, parce que là, bon, évidemment, on n'est pas dans une année comme habituelle, là, ce qui ne veut pas dire que l'année prochaine, puis là, les autres années, il n'y aurait pas de monde, mais vous comprendrez que cette année, c'est quintuplé, là, le nombre de personnes. On a juste ça à faire, aller jouer dehors, mais est-ce que ça vous fait dire... Bon, puis je sais qu'il y a des calculs à faire, mais ce serait-tu une bonne chose de rendre ça gratuit à l'année? On pourrait-tu le séparer en saison, dire gratuité l'hiver, puis payer l'été?
Exactement. Premièrement, on va régler une affaire.
Ouais.
Ça n'existe pas, la gratuité.
Non, on va le payer quelque part, là.
On va le payer quelque part.
Ouais.
Fait que là, ce qu'on peut faire, c'est regarder comment on peut le plus possible le rendre universellement accessible. Là, l'hiver, moi, je pense que l'hiver, ça s'y prête bien.
Okay.
Il y a des coûts reliés à ça, mais compte tenu de la surveillance qu'on doit y faire, de l'entretien qu'on doit y faire, de l'usage que les citoyens y font, ça devient quelque chose de possible puis d'envisageable à court moyen terme. Il va falloir s'ajuster parce que on a un plan directeur de l'île, on a un budget municipal, on a un conseil d'administration aussi qui voit aux orientations de l'île. Et ça, faut tout respecter ça. Mais c'est très envisageable. Puis comme dirait Bernard Landry, vox populi, vox dei. Donc les gens le veulent, donc faut s'arranger pour le faire.
Ok.
Ça devient intéressant.
Okay.
Pour l'été, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas juste une question de revenus, c'est une question aussi de respect de la biodiversité de l'île, c'est une question de respect de l'accès, c'est une question de sécurité, c'est une question de gestion de foule et de gens présents. Donc c'est plus compliqué et aussi lorsqu'on met les deux ensemble, ben là il faut comprendre que on a une donnée fiscale qui est importante, c'est celle de la vocation de l'île qui est une vocation commerciale en ce moment et qui nous amène à avoir certains avantages fiscaux qui nous donnent, par exemple, des retours de taxes et tout ça. Et ça, c'est un montant qui est quand même appréciable et qui nous obligerait à un rétroactif si on mettait l'île gratuite à l'année.
Okay.
Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je vous dis que c'est quand même des montants importants qui sont beaucoup plus que les 400 000 qui ont été énoncés là, en frais d'opération.
Bon, là, on sait qu'il y a des travaux importants qui s'échelonnaient sur plusieurs années. Là, l'île, l'été prochain, est-ce qu'elle sera accessible et ouverte pour l'été?
Ben l'île, elle va être ouverte pour l'été. Je pense que les travaux sont complétés. L'île sera ouverte. Maintenant, aussi, ce qui plus, si vous me permettez, je vais glisser sur encore. Je vais revenir un peu en arrière pour dire que il faut travailler avec les entre autres avec toutes les bonifications qu'on va faire à Lille sur le plan directeur. Est-ce que vous parlez des travaux?
Oui, mais les travaux, ouais, parce que ben là, vous, en fait, vous me ramenez, mais c'est parce que là, moi, je voulais aller plus loin, M. Lamarche, parce que il y a les travaux de construction du pavillon des baigneurs. Ça, c'est pour quand?
Ça en vient, qui vont débuter au cours de l'été prochain, je crois. Il faudrait que je valide. Moi, je vous donnerai les informations rapidement, mais je crois que c'est l'été prochain. Okay. On a devancé les travaux de passerelle d'un an. Donc, le contexte pandémique a fait en sorte qu'on a pu accélérer les travaux de passerelle et les terminer cette année, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines.
Okay.
Et après ça, ce que ça fait en sorte, c'est que maintenant, on va améliorer l'offre de l'île Saint-Quentin, puis il faut continuer dans ce sens-là. Donc, est-ce que ça peut vouloir dire une amélioration du concept de restauration? Est-ce que ça peut vouloir dire aussi un sentiment d'appartenance élargi ou agrandi de l'île par exemple, des produits dérivés? Est-ce qu'on pourrait avoir... T'sais, vous pourriez avoir, par exemple, vous, je sais que vous êtes amateur, mais vous pourriez avoir votre frisbee des Saint-Quentin. Vous pourriez avoir votre...
OK, de Lille. Je pensais que vous me disiez que j'étais amateur de frisbee. Je venais de l'apprendre, ça me fait plaisir. Mais oui, de Lille, oui.
Mais,
OK, mais donc mais de diversifier l'offre.
On pourrait comme... Ben, multiplier l'offre et multiplier aussi les sources de revenus.
Il
pourrait avoir de la location. Comme ça, on pourrait garder un prix minimum et nécessaire pour la vocation commerciale au niveau fiscal. Mais en même temps, on pourrait se permettre, ensemble, collectivement, d'avoir une gratuité pour l'hiver.
OK. Je termine sur un point, M. Lamarche. Un auditeur qui demande par quoi va-t-on remplacer la bâtisse à la pointe de sable? Ça vous dit quelque chose?
C'est un lieu
qui était très prisé par les 18-30 ans. Je ne sais pas exactement de quoi il parle.
Est-ce qu'il parle de la plage?
OK, je sais pas. Je vais demander plus d'informations.
Je suis pas
une spécialiste.
Pas avec le point de sable. Ouais.
Bon, OK. Alors, donc, est-ce que ça pourrait être un enjeu aux prochaines élections, M. Lamarche? C'est-tu un dossier important?
Ça l'était aux dernières. Moi, vous vous souvenez, j'ai parlé beaucoup que ça passait par les aqueducs et les égouts, le développement de l'île Saint-Quentin. C'était la première des étapes. On s'est arrangé pour aller chercher les sous. Maintenant, oui, il va y avoir des enjeux. J'entends parler... Puis je veux vous dire, il y a aussi un concept de carte citoyen là, qui a été nommé. Oui. Jean-François Aubin en avait parlé justement aux dernières élections. Moi, ce concept-là, il faudrait qu'on m'en fasse la démonstration parce que ces cartes avantages-là, faut savoir que c'est aussi, ça vient toucher différents éléments, différents événements, donc différents plans d'affaires, différentes organisations. Il faudrait voir que le 10% qu'on enlèverait à un endroit, est-ce qu'on va devoir le payer autrement? Et est-ce que l'usager de la carte va vraiment sortir gagnant de ça?
Vous n'êtes pas convaincu.
C'est un concept marketing.
Ouais. Hein, c'est ça, exact.
C'est pas fait nécessairement pour l'usager, c'est fait aussi pour les organisations.
OK. Monsieur Lamarche, je veux passer à autre chose, le temps file un petit peu. Je veux parler de ce dossier précis-là concernant un chien. Il y a une propriétaire de chien qui n'est pas heureuse de la décision de la ville de la forcer à se départir de son animal parce que, son chien a mordu à la main sa voisine. Elle a dit « Mon chien n'est pas dangereux, il m'a protégé. » Bon, après évaluation, on dit que le chien a été jugé à 8 sur 10 sur une échelle de dangerosité. Mais au-delà du cas précis, là, parce que là, on envoie le chien à la SPA, puis là, on va voir s'il est réhabilitable, puis après ça, on va prendre une décision. Mais ça, c'est compliqué à Trois-Rivières. Pourquoi on statue pas?
Je vous écoutais tantôt, puis je comprends pas pourquoi vous dites que c'est compliqué, parce que à mon avis, c'est très clair. Puis ce qu'on a fait, je peux vous l'expliquer en 2 minutes, c'est que on sait vraiment, puis j'ai écrit aussi à la dame, là, pour savoir, j'ai écrit personnellement pour y expliquer un peu l'encadrement, tout ça. C'est que pour s'éloigner du registre émotif, parce que lorsqu'on parle de nos animaux, on devient vite émotif à ce niveau-là. Donc, ce qu'on a fait à la ville, et c'est très simple, c'est que le 19 mai 2020, on a adopté une résolution par laquelle on désignait un comité de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, pour appliquer la déclaration des chiens potentiellement dangereux qui nous a été imposée par le gouvernement provincial. Là, je vous le rappelle, Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne une distance pour un maximum d'objectivité et à partir des rapports des vétérinaires, à partir des rapports d'analyse, à partir des preuves qu'ils ont, ils appliquent le règlement. Donc, on ne peut plus clair et on ne peut plus simple comme façon de faire.
Je ne suis pas d'accord, M. Lamarche. À Shawinigan, il me semble que ça va plus rondement. On prend des décisions concrètes.
J'ai des souvenirs. Écoutez, Shawinigan fait un bon travail et c'est pas du tout ce que je vais... C'est là que je m'en vais, mais il y a eu des dossiers aussi où c'était compliqué avec des chiens Shawinigan parce que, non pas parce que le règlement est pas appliqué, parce qu'on parle dans un registre émotif où on est attaché à nos animaux et on doit nous porter un jugement. Non, oui, c'est ça le point.
Non, je ne vous parle pas de l'individu puis de la propriétaire. Je vous parle de la ville, le rôle que la ville peut jouer. Le conseil municipal à Shawinigan, à certains moments, puis je me souviens pas de la date exacte, on a statué dans certains dossiers, on avait ordonné l'euthanasie d'un chien dangereux. Pourquoi à Trois-Rivières, ça prend un comité,
ça prend
des fonctionnaires, puis ça prend un SPA, puis on est 28 là-dedans?
Non. Vous souvenez-vous, Mme Gaudreau, du débat que ça a nécessité pour arriver à ça, à ce vote du conseil-là? C'était la même chose.
Oui, mais
c'est pour ça que je vous dis que le registre émotif vient jouer beaucoup, mais la décision chez nous, elle se prend, on ne peut plus clair la décision. Hey. On reçoit des preuves, on reçoit des rapports d'analyse, il y a une décision qui se prend.
Mais M. Lamarche...
Il n'y en a pas eu beaucoup des cas là depuis 2020, il faut le savoir. Et à chaque fois, à Trois-Rivières, les cas, ils se sont faits. Pas toujours à la satisfaction des propriétaires de chiens.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais mon point, c'est pas à la satisfaction du propriétaire. Un chien dangereux qui est évalué à 8 sur 10, pourquoi on va le réévaluer, puis on va le renvoyer, puis là, on va voir après si... Mais c'est parce que, M. Lamarche, un chien dangereux, c'est un chien dangereux.
Il est remis à l'SPA, puis ensuite, eux, qui sont nos experts mandatés, ils déterminent vers où... Si on peut récupérer l'animal ou non. Mais pour moi, c'est clair, ça. Je vois pas où il y a de l'ambiguïté, mais écoutez...
Il y a de l'ambiguïté dans le sens pourquoi la ville ne statue pas elle-même, comme à Shawinigan, ils ont fait dans certains cas. C'est-à-dire ordonner l'euthanasie du chien.
Ils l'ont fait à partir d'éléments d'analyse. Exactement. C'est la même démarche que nous, sauf qu'à bout de ligne, c'est une résolution versus une décision qui est prise par un comité. Mais je vous dirais que la démarche est à peu près pareille.
Oui, mais qu'est-ce qui nous garantit, M. Lamarche, que des chiens qui se retrouvent à la SPA ne se retrouvent pas dans les mains de d'autres propriétaires? Je parle de chiens dangereux.
Bien, ce qui vous garantit ça, c'est la qualité des gens en place à la SPCA, c'est la qualité des vétérinaires mandatés, c'est la qualité aussi de nos équipes. Ouais. La SPA, c'est la SPA Mauricie.
Non, je comprends.
Ça couvre pas seulement que Trois-Rivières.
C'est pas une attaque envers eux, mais moi, ça m'inquiète de savoir qu'il y a peut-être des chiens qui sont... Tu sais, moi, un chien à 8 sur 10, là, qu'on considère dangereux, je le veux pas dans une autre maison quelque part. Là. Il y a peut-être juste moi.
C'est évident. Évident si on le laisse dans cette situation-là. Maintenant, moi, je suis pas un spécialiste canin. J'ai déjà deux chiens et j'ai de la difficulté à m'en occuper.
Mais en voudriez-vous un chien dangereux à 8 sur 10, vous, chez vous? Non, hein?
Ben, écoutez, ça dépend s'il est soigné, ça dépend...
Monsieur Lamarche, arrêtez-moi ça, là. Vous voulez un chien dangereux à 8 sur 10 avec vos enfants, mais je vous donne bonne chance.
Ben non, je ne veux pas un chien dangereux.
OK,
mais
c'est bon.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec certains chiens? Ben, c'est ça. Mmh. Mais écoutez, je suis mal à l'aise de vous répondre
D'accord,
à ça, parce
c'est
que
bon.
je ne suis pas César, moi. Je connais pas...
Non, je ne vous demande pas d'être César. Je vous posais une question humain à humain, là. Ça vous tente-tu d'avoir un chien qui est considéré comme étant dangereux à 8 sur 10? C'était une question citoyenne.
Ah, ben moi, je vous dirais que, personnellement, je n'ai pas les compétences pour avoir un chien difficile.
Bon, OK. Merci. On s'en reparle. Bye-bye. Merci, M. Lamarche.
Ça, c'est avec plaisir,
oui,
madame.
À bientôt. Bye. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.